Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI, les médias Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, les condamnations se multiplient après la frappe meurtrière sur la ville ukrainienne de Soumy qui a fait au moins 34 morts. Sur notre antenne ce matin, l'opposant russe Vladimir Karamurza a dénoncé une nouvelle fois une guerre criminelle menée par Vladimir Poutine. L'un des rares hôpitaux palestiniens encore en service ces derniers mois est désormais à l'arrêt après une frappe israélienne. À suivre le reportage sur place de notre correspondant. Et puis tenir un peu éloigné le fracas du monde, la chanteuse Barbara Carlotti tente de s'extraire du chaos ambiant dans son 6e album studio. Quelques notes salvatrices à la fin de ce journal. Les condamnations se multiplient depuis l'attaque de Soumy qui a fait au moins 34 morts et une centaine de blessés, la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine. Pour Donald Trump, c'est une chose horrible, mais le président américain n'a pas évoqué la responsabilité russe. Moscou a frappé dimanche matin avec des missiles le centre-ville de Soumy, alors que les rues étaient pleines de monde. C'est un crime de guerre grave, délibéré et voulu pour le futur chancelier allemand Friedrich Merz. L'opposant russe Vladimir Karamurza, ancien prisonnier politique, est-elle invitée d'Arnaud Pontu ce matin? Il avait été arrêté en 2022 pour avoir critiqué l'invasion russe de l'Ukraine. Pour Vladimir Karamurza, la guerre et la répression des opposants vont de pair, on l'écoute.
Je veux que cette guerre termine le plus vite possible parce qu'il y a déjà des centaines de milliers de vies humaines qui sont perdues à cause de cette agression, à cause de cette guerre criminelle menée par le régime autoritaire de Vladimir Poutine.
Mais pour que la guerre s'arrête, il faut que Poutine le veuille. Est-ce que Vladimir Poutine veut la paix?
Non, bien sûr, il ne veut pas la paix. Et il faut dire que il n'y aura pas de paix pendant que Vladimir Poutine reste au pouvoir. La seule façon d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité sur le continent européen à long terme, c'est d'avoir une Russie démocratique, une Russie qui va respecter les lois, les droits et les libertés de nos propres citoyens et aussi qui va respecter les frontières de ses voisins et les normes du comportement civilisé dans le monde. Parce qu'en Russie, la répression à l'intérieur et l'agression à l'extérieur vont toujours ensemble. Donc il n'y aura pas de paix pendant que Poutine reste au pouvoir, mais le cessez-le-feu est possible.
L'opposant russe Vladimir Karamurza, interrogé par Arnaud Pontu ce matin sur RFI. Un énorme trou béant dans un établissement de Gazaville, des portes de bâtiments arrachées. Une frappe israélienne a mis à l'arrêt l'un des rares hôpitaux qui était toujours en activité dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu promet désormais d'étendre son offensive à Gaza après avoir mis fin à la trêve le mois dernier. L'Organisation mondiale de la santé dénonce la mort d'un enfant mort à cause de l'interruption des soins. Israël affirme avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Le correspondant de RFI à Gaza, Rami El-Mergari, s'est rendu sur place devant l'hôpital El Ali. Le récit d'Abla Junaïdi.
Il est 1h30 du matin quand des cris déchirent le silence d'Al-Ahli. Quelqu'un au dehors vient d'alerter, il faut évacuer l'hôpital. L'urgentiste Abdelkader Abou Samra tente de décrire la scène.
C'était indescriptible. Le jour du jugement dernier, les blessés grimaçaient de douleur, on les transportait sur des lits à bout de bras. C'était terrible. On a utilisé les ambulances pour évacuer autant qu'on pouvait.
Mohamed Abou Nasser, paralysé des deux jambes, est resté dans une partie du bâtiment qui n'a pas été détruite. La déflagration a jamais gravé dans la mémoire et la peur au ventre.
Nous, les malades, on dormait dans le service chirurgie. On était effrayés, terrorisés. Il n'y a plus d'endroit sûr.
Les urgences, la banque de sang, le laboratoire ont été soufflés, signant la fin des opérations pour le directeur de l'hôpital, Fadel Narim.
Ce sont les installations les plus importantes. On recevait 300 cas par jour, on réalisait des centaines de tests en labo et on ne pourra plus le faire. Il faudra rediriger les gens ailleurs à Gaza.
Ailleurs, mais où? Aucun autre hôpital n'a les moyens qu'offrait l'hôpital Baptiste jusqu'à ce dimanche. Rami El-Merari, Gaza, Abla Junaïdi, Jérusalem, RFI.
Et relater la guerre à Gaza est une gageure alors que l'enclave est toujours interdite aux journalistes internationaux. Beaucoup de reporters gazaouis ont eux été tués. Près de 200 sont décédés depuis le début de la guerre en octobre 2023. Un collectif d'organisations professionnelles françaises comme Reporters sans frontières et les sociétés des journalistes de nombreux médias, dont RFI, dénoncent cette situation dans une tribune publiée par Le Monde, une hécatombe d'une magnitude jamais vue. Téhéran et Moscou vont évoquer les pourparlers sur le nucléaire qui ont lieu avec les Américains en ce moment. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra dans les prochains jours au Kremlin pour des consultations. Un déplacement prévu depuis longtemps, mais qui permettra d'aborder les derniers développements liés aux négociations avec les États-Unis. Le prochain round de discussion se tiendra à Rome samedi prochain, toujours sous l'égide d'Oman. Le chef de l'AIEA, l'agence atomique, ira à Téhéran cette semaine. Nouveau regain de tension entre Paris et Alger. Après une petite accalmie, les autorités algériennes ont décidé d'expulser 12 fonctionnaires français. Une décision prise, dit Alger, après l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Vendredi, 3 hommes, dont l'un employé de l'un des consulats d'Algérie en France, ont été mis en examen à Paris. Cette affaire concerne l'enlèvement de l'opposant au régime algérien, l'influenceur Amir des aides. Dès samedi, le ministère algérien des Affaires étrangères avait dénoncé une cabale judiciaire inadmissible. Le gouvernement français menace à son tour de prendre des mesures de rétorsion. Mark Zuckerberg espérait bénéficier du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais l'entreprise Meta, qui comparait à partir d'aujourd'hui au tribunal de Washington, risque gros. Ce géant de la tech est accusé de pratiques anticoncurrentielles. Au cœur de ce procès, WhatsApp et Instagram, deux plateformes acquises par Meta au début des années 2010. L'IA Roisin Pilot.
En 2012, Instagram était une jeune application mobile et surtout une possible concurrente pour Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook et patron de Meta. Il a donc racheté ce réseau social et reproduit la même logique 2 ans plus tard avec l'acquisition de WhatsApp. Aujourd'hui, Instagram compte 2 milliards d'utilisateurs et WhatsApp presque 3 milliards. Un risque de monopole selon la FTC, l'autorité américaine de la concurrence. C'est donc un procès de 8 semaines minimum qui débute et les enjeux sont gros. Si la FTC l'emporte, Meta devra peut-être abandonner les deux plateformes. Pour Zuckerberg, c'est la désillusion. En janvier dernier, le milliardaire a soutenu Donald Trump à la présidentielle. Il espérait ainsi un assouplissement du droit à la concurrence. Depuis, il s'est rendu plusieurs fois à Mar-a-Lago, la résidence du dirigeant américain, mais aussi à la Maison Blanche. Il venait y plaider l'arrêt des poursuites contre son entreprise, mais sans succès.
De la culture qui sauve pour finir ce journal, et si la musique pouvait conjurer une époque de chaos, c'est le pari et le souhait de la chanteuse Barbara Carlotti qui vient de faire paraître son 6e album, Sophie Torlotin.
La mort est partout, elle t'attend à tous les coins de rue. Elle ne passe pas par 4 chemins, elle te prend quand tu ne l'attends plus.
Elle a vu la mort de près, Barbara Carlotti. Après avoir eu très peur lors d'un grave accident, la chanteuse à la voix chaude et grave a écrit cette chanson qui donne son titre à l'album « Chéris ton futur ».
Donc chéris ton futur et soigne bien ton style.
La période du Covid et tout ce qui s'est passé après, la guerre en Ukraine, enfin tous ces enchaînements absolument dramatiques, tout ce qui maintenant a envahi complètement l'actualité me fait penser que oui, on peut pas se laisser absorber par tout ce qui est absolument délétère dans l'actualité. C'est devenu une sorte d'attitude en fait.
Composée en grande partie lors d'une résidence d'artiste à la Villa Médicis à Rome, plusieurs titres rendent hommage à la beauté de la capitale italienne. Mêlant diverses influences entre pop italienne, chansons françaises et rock anglais, ce 6e album solaire permet de s'évader d'un quotidien morose et incertain.
On avance vers l'inconnu, l'inconnu,
l'inconnu.
L'inconnu,
l'inconnu,
mon bel inconnu.
Voilà, c'était Barbara Carlotti. Tout de suite, 8 milliards de voisins.